Le titre de mon message ce matin, dans cette vacance de la construction, c'est SQDC, SAQ ou TTS. Un sujet léger ce matin pour un jeune pasteur comme moi, mais allons-y. Dans cette thématique potluck, on parle de sujets chauds, sujets piquants. Et peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas c'est quoi la SQDC. Je vais vous mettre en contexte, j'ai des amis suisses qui sont en visite ce matin, qui ne savaient pas trop c'était quoi la SQDC. SQDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Société québécoise du cannabis. Est-ce qu'il y en a qui ne savaient pas c'est quoi la SQDC à main levée? Juste savoir si mon message est pertinent ce matin. OK, il y en a qui savent, parfait, super. Il n'y a pas de condamnation ici. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Qui savent pas c'est quoi la SAQ, la Société des alcools du Québec? Et TTS, c'est les très, très spirituels. Très, ou on pourrait dire trop, trop spirituel. Ah, intéressant, en vrai, j'avais très, très spirituel, mais où il y a aussi trop, trop spirituel. Parfait. Fait que moi, je pense que c'est important de parler de ces sujets-là ce matin, mais on ne va pas seulement parler de ça, seulement parler du cannabis, ni de l'alcool, mais c'est juste pour nous, c'est un prétexte pour nous aider à voir, à savoir des fois, on parle de ces sujets-là, mais quoi faire en tant que chrétien face à certaines situations éthiques? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire ça? Est-ce que c'est trop, trop spirituel de faire ça ou pas assez? Mais juste avant, vous savez, apporter un message comme ça, c'est un peu stressant pour un pasteur, parce que ça se peut que je reçoive des critiques, ça se peut qu'il y en a qui vous disent « Mais pourquoi on parle de ça? Tu aurais dû parler plus de ça, tu n'en as pas assez parlé. » Qui croit ce matin qu'un chrétien a le droit de prendre du cannabis? C'est rendu légal maintenant, à main levée, là, OK? Aidez-moi, là. Qui croit qu'un chrétien a le droit de prendre du cannabis? À main levée. Il y en a qui lèvent la main, vous avez le droit. Il y en a qui ne lèvent pas la main, c'est bien correct aussi. On ne juge personne ce matin. OK, on va aller à SAQ maintenant. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'un chrétien a le droit de boire de l'alcool? À main levée. OK, il y en a qui ne lèvent pas la main, c'est correct. C'est correct. Super. Puis vous savez, on a tous un background différent. Je regarde mes frères ivoiriens et sœurs ivoiriens. J'ai des amis brésiliens qui sont ici, colombiens. Il y en a qui sont canadiens, mais qui ont un background catholique. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un party de famille, mais la famille sait que je suis pasteur. Ça m'est arrivé, j'ai pris un verre de vin. Okay? Jésus a changé l'eau en vin, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, je me suis permis, j'ai le droit de prendre un verre de vin. Et il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a regardé ici au Québec. « Pasteur, tu bois de l'alcool? » Je me suis senti mal pendant une année au complet, vous savez, mais je pense qu'avec modération, il y a certaines choses qu'on peut prendre. C'est pour ça qu'on parle d'un message comme ça ce matin. Un message qui va très bien avec les vacances de la construction. Parce qu'un mot qu'on va utiliser beaucoup ce matin, c'est l'édification. Et l'apôtre Paul utilise ce mot en grec qui veut dire « oikodomeo », qui veut dire « construire, édifier, faire du bien ». Et si on parle du cannabis rapidement, le cannabis, et selon des études scientifiques, ils ont fait des études, on a vu qu'il y a certains bienfaits liés avec le cannabis, pour ceux qui ont levé la main tantôt. La gestion de la douleur chronique. Il y a des gens qui ont de la douleur chronique et le médecin leur prescrivent du cannabis. Ils peuvent prendre autre chose, mais des fois, c'est prescrit et ça fait des certains bienfaits. L'amélioration de l'appétit chez les patients atteints du VIH et du cancer. Le soulagement des nausées chez les personnes qui ont des traitements de chimiothérapie. Il y a pour ceux qui ont des maladies ou des fois qui ont des problèmes d'inflammation ou qui sont épileptiques, le cannabis peut les aider. Et bien sûr, moi, je ne vais pas m'attarder à ce que la Bible dit sur le cannabis. Il y a certains textes qui parlent des drogues, mais je ne vais pas m'attarder à ça ce matin. Mais tout ça pour vous dire le texte qu'on va lire dans 1 Corinthiens va nous aider un peu à développer notre pensée là-dessus. Mais moi, si quelqu'un vient me voir, c'est souvent arrivé avec des situations, me dire, « Pasteur, est-ce que moi, j'ai des douleurs, ça me fait mal, j'ai une souffrance, est-ce que j'ai le droit de prendre du cannabis? » Comprenez que si moi, je ne vis pas sa douleur, mais je fais juste être tranchant et dire non, un chrétien ou une chrétienne ne devrait pas en prendre, je manquerais de sensibilité. Si la douleur de la personne est tellement intense, elle souffre depuis des années, alors que moi, je n'ai pas cette douleur-là, je suis qui, moi, pour lui? Pour être tranchant comme ça, alors qu'aujourd'hui, le cannabis est légal chez nous, dans notre pays. Je ne fais pas l'apologie du cannabis ici. Je dois juste dire que des fois, on ne doit pas trop être des TTS, des trop, trop spirituels, et oublier qu'on doit prendre un recul, revenir aux Écritures, regarder ce que la science dit, et parfois, dans certaines situations, il y a des nuances. dois parler des méfaits du cannabis. Le cannabis peut altérer la mémoire, l'attention, la concentration et la capacité d'apprentissage, surtout sur nos ados que leur cerveau est encore en développement. Le cannabis peut avoir un impact sur la santé mentale, on le voit. Ça peut amener de l'anxiété, de la dépression, la psychose, la schizophrénie. Ça peut avoir des effets sur la santé pulmonaire. Donc, il est important de savoir qu'il y a des bienfaits et il y a des méfaits. L'alcool, maintenant. On connaît pas beaucoup les bienfaits de l'alcool. On a souvent, dans le milieu chrétien, stigmatisé l'alcool, mais on en prend, on ne le dit pas trop. Mais il faut savoir qu'il y a des bienfaits. Les bienfaits, par exemple, cardiovasculaires. Des études ont suggéré que la consommation modérée d'alcool, en particulier le vin rouge, peut être associée à une réduction de risque de maladies cardiovasculaires. L'apôtre Paul dira à Timothée, « Prends du vin, c'est bon pour ton estomac. » Et mais il ne dit pas « Prends du vin sans arrêt, prends une bouteille de vin à tous les jours. » Bien sûr, il y a un contexte. La réduction du risque de diabète de type 2, ça peut être un des bienfaits. Les effets neuroprotecteurs potentiels, certaines études ont suggéré que la consommation modérée d'alcool peut être liée à une diminution du risque de démence. Les effets sociaux et psychologiques, vous vous rappelez la pandémie? Oh, qui ne voulait pas fermer la SAQ, parce qu'ils savaient que ça aurait eu un impact sur la santé mentale. Dans certaines cultures, la consommation modérée d'alcool peut être associée à des interactions sociales positives, à la détente et au soulagement du stress. Mais il y a aussi des méfaits. L'alcool peut avoir des méfaits, puis ça peut avoir bien sûr des impacts sur la santé mentale, la dépendance, ça on le sait. Mais il y a une étude qui est sortie dernièrement, une étude très importante, qui a fait un lien avec le cancer et l'alcool. Donc, consommer trop souvent sur une base régulière, ça peut avoir un impact même sur le cancer. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. C'est important de nuancer. Mais le chrétien ne doit pas seulement regarder à la science, aux études. Le chrétien doit porter ses lunettes spirituelles. Lorsqu'on parle de ces sujets-là, que ce soit l'alcool, la drogue, les sujets éthiques, lorsque des fois on se dit « est-ce qu'un chrétien peut faire ça, ne pas faire ça? » On doit toujours mettre nos lunettes spirituelles. Mais on doit revenir à la parole par rapport à comment on doit consommer de l'alcool et autres. Pour qui les « ah » c'est dans le Proverbe 23, 29, 35. Pour qui les « ah » Pour qui les « hélas » Pour qui les disputes Pour qui les plaintes Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Ça s'applique à l'alcool et au cannabis. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé et je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Cette image justement d'une personne qui s'est laissée avoir par l'alcool, par le vin dans ce cas-là, et que finalement tu as perdu le contrôle de toi. On a tous déjà vu ça, ou peut-être ça vous est déjà arrivé, moi, oui, dans mon cas, dans mon jeune âge, où ce que j'avais tellement consommé que on pouvait me maltraiter, mais que je ne le réalisais pas. Il faut réaliser à quel point ça peut avoir un impact. Et la Bible nous parle de l'excès, à quel point ça peut faire mal, mais nous humilier. Et si on revient à le gouvernement, si on parle juste du gouvernement, parce qu'on croit, nous, que Dieu a établi le gouvernement pour qu'ils utilisent leur sagesse, est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais si on regarde les barèmes du gouvernement, le gouvernement a déclaré que la tolérance zéro pour la conduite, il y a une tolérance zéro pour la conduite lorsque tu as consommé du cannabis. Les études montrent qu'une très faible consommation de cannabis, 2 à 4 aspirations seulement, suffisent pour dépasser la limite légale à l'état d'ébriété. Ce qui veut dire que tu peux boire un verre de vin et conduire, mais si tu fumes du cannabis, tu prends 2 puffs, comme on le dit dans le langage populaire, tu ne peux pas conduire. Moi, je ne pourrais pas prêcher ce matin en fumant du cannabis. J'en ai déjà fumé, laissez-moi vous dire, je ne pourrais pas, je n'aurais pas mes moyens, ça irait pas bien. Fait qu'il faut, encore une fois, mettre nos lunettes spirituelles pour discerner ce qu'on peut faire et ne pas faire. Don Williams, dans son livre « Les 12 étapes avec Jésus », dit quelque chose de très intéressant en lien avec les dépendances, que ce soit cannabis, alcool et autres. 96% d'entre nous provenons de familles dysfonctionnelles dans lesquelles de tels abus se sont produits. Dans un sens, puisque notre monde est déchu, je crois que l'on pourrait même dire 100% de nos familles sont dysfonctionnelles. Autrement dit, nous venons tous de familles qui n'ont pas fonctionné selon le dessein divin. Le résultat en est que plus de 75 millions d'entre nous sont touchés directement par le fléau de l'alcoolisme. 82% des infirmières sont l'enfant aîné d'un parent alcoolique. Elles ont appris tôt dans la vie à s'occuper des autres. Près de 60% de toutes les femmes et 50% de tous les hommes connaissent de troubles de l'alimentation. Résultat, ils produisent des millions d'enfants qui manquent d'exercice et prennent trop de poids. Puis encore, 50% de tous les enfants de notre génération grandiront dans des familles monoparentales sans l'influence permanente d'un homme dans la maison. La responsabilité première du père étant de protéger sa famille, son absence laisse les enfants exposés à toutes sortes d'abus. Ce n'est pas seulement des statistiques. Moi, lorsque j'ai lu ça, ça m'a vraiment frappé. Parce que moi, c'était ma vie. D'avoir un père alcoolique qui buvait. Mais tout ça, ça enchaînait que socialement, il n'était pas présent en tant que père. J'ai été élevé par une maman monoparentale. Mon père est décédé, ça avait un lien justement avec sa consommation d'alcool. Et moi, ça m'a donné un signal d'alarme de toujours me dire « qu'est-ce que tu veux devenir? Veux-tu être un père présent ou un père absent? Veux-tu qu'une dépendance t'enlève la vie ou t'enchaîne? » Mais c'est tellement essentiel pour nous. Puis oui, on parle de le cannabis, on parle d'alcool, mais il y a tellement de dépendances qui peuvent nous lier et nous empêcher d'avoir un impact dans nos familles, dans notre société. Vous savez, la famille, c'est la première église. Et si nos familles ne vont pas bien, s'il y a des liens de dépendance dans nos familles, ça a un impact sur notre Église, ça a un impact sur le message de l'Évangile, sur la bonne nouvelle. Et parlant de bonne nouvelle, le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Ça va apparaître à l'écran. Et l'apôtre Paul, justement, est en train d'essayer d'être l'arbitre et l'enseignant face à une situation que les chrétiens de Corinthe vivaient à l'époque. Parce qu'il y avait des viandes qui étaient sacrifiées, ils faisaient des barbecues et ils sacrifiaient à des faux idoles, des faux dieux. Et l'apôtre Paul devait commencer à dire aux chrétiens, mais oui, mais les chrétiens disaient, oui, mais qu'est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande-là qui est sacrifiée à des faux dieux? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Donc voici la réponse de l'apôtre Paul. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi et à édifier. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Par conscience, j'entends évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Comme je le disais un peu plus tôt, des gens de Corinthiens sont devenus chrétiens. Plusieurs d'entre eux sont devenus chrétiens, mais il y avait cette culture de sacrifier cette viande au marché. Et une fois qu'ils sont devenus chrétiens, mais Paul les invite à édifier, à construire leur caractère et celui des autres. Et le mot, comme je vous disais tantôt, édifier, est utilisé 11 fois dans l'Épître aux Corinthiens. Donc l'apôtre Paul prend le temps de miser là-dessus, de mettre une importance sur le fait de construire leur caractère, mais aussi leurs églises. Et il y a trois groupes qui sont au centre de cette lettre. Il y a les Juifs, convertis au christianisme, ceux qui croyaient en l'Ancien Testament, mais maintenant apprennent la bonne nouvelle de Jésus, qui deviennent des chrétiens. Il y a les nouveaux convertis, qui sont issus des nations, qui sont des Grecs ou d'autres personnes qui habitent à la ville de Corinthe ou en Grèce. Et il y a ceux qui ne sont pas convertis au christianisme et que Paul veut aussi que ces gens-là acceptent Jésus. Là, il dit, on sait qu'ils existent aussi, on ne veut pas les mettre de côté. On veut que la bonne nouvelle de Jésus puisse l'entendre. Et il parle des viandes sacrifiées. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait un système sacrificiel, littéralement. Ça faisait partie de la société, les gens faisaient ça régulièrement. Par exemple, c'est comme s'il y avait une invitation, des fois vous recevez une invitation pour un baptême, pour un shower, vous recevez une invitation virtuelle ou une carte, mais à l'époque, c'était courant de participer à des fêtes comme ça où on faisait un barbecue puis on le donnait aux faux dieux pour leur dire merci parce qu'ils nous donnaient la vie, etc. J'y crois pas, les chrétiens non plus n'y croyaient pas, mais c'était coutume à l'époque. Mais ça causait des problèmes. Parce que socialement, tu étais chrétien, tu ne pouvais pas nécessairement participer à ces fêtes-là, mais toute ta famille y allait, mais toi, tu ne pouvais pas y aller. Fait que les chrétiens vivaient ce déchirement-là de dire oui, mais en même temps, on veut faire partie de notre communauté, on veut quand même leur amener l'Évangile, mais on ne peut pas être avec eux dans les fêtes. Donc l'apôtre Paul doit prendre le temps de clarifier les choses. Et ça crée aussi des problèmes au niveau juste économique, parce que la viande qui était sacrifiée pour ces idoles-là, c'était la viande qui était aussi vendue parfois au marché. Mais la viande qui était sacrifiée aux idoles, c'était de la meilleure viande. Fait que souvent, tu regardais la viande sacrifiée aux idoles, puis l'autre viande qui n'était pas vraiment bonne, mais les chrétiens étaient mal pris. On aime Jésus, mais on aime le bon barbecue, le bon steak, très bon, là. Fait qu'il faut se mettre un peu dans le contexte, sans juste trancher. Il faut se mettre un peu en contexte comment ces chrétiens-là vivaient ça à l'époque. Puis, c'est pas tout le monde qui pense de la même manière. C'est pour ça que Paul écrit ça. Il y a des gens qui disent « pas de problème ». On accepte une invitation, on y va, on prie au nom de Jésus sur la bouffe sacrifiée aux idoles, on sait qu'ils n'existent pas. Mais il y en a d'autres qui étaient comme, non, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vous dites chrétien, mais vous mangez cette viande-là, on ne veut rien savoir des idoles, c'est quoi cette affaire-là? Donc ça créait des petites chicanes. Mais l'apôtre Paul, quand il parle de ces gens-là qui sont un peu plus faibles dans la foi, voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 8, verset 9, « Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. » L'apôtre Paul prend le temps de souligner, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu là dans son cheminement spirituel. Donc, il faut respecter ceux qui croient d'une certaine manière, ou ceux qui sont plus avancés, ou ceux qui ont des convictions différentes. Et Paul est d'accord, il dit, moi je sais qu'il y a un seul Dieu. Il dit, oui, il y a des forces démoniaques qui existent, mais il croit qu'ils ont été vaincus à la croix. Et puis, il les défie à comprendre qu'on n'est pas tous au même niveau. Il prend position sur le fait, il dit, hey, allez pas au banquet, faites pas exprès d'aller dans le temple où ce qu'on est en train de louer des faux dieux, là. Faites pas exprès d'aller dans ces endroits-là. Mais il prend le temps de dire, utilisez le plus souvent possible la loi de l'amour. Utilisez le plus souvent la loi de l'amour. Le respect pour les chrétiens, le respect pour ceux qui sont moins avancés dans la foi et le respect pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce texte qu'on a lu s'applique tellement à aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société où ce que des religions, des spiritualités, il y en a de toutes sortes, hein, vous le savez. Mais on doit comment trouver notre place et rester nous-mêmes. Pour nous, c'est hyper important. Voici mes trois points ce matin. On existe pour édifier les chrétiens. On existe pour édifier le nom de Jésus. Et on existe pour sauver le monde. Rien de moins. Vous êtes avec moi? Verset 23, qu'est-ce que ça dit? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Revenons à l'idée de construire, édifier. Est-ce que ça vous édifierait, vous, cet après-midi, si vous me voyez, après avoir prêché, je vais dans la ligne à la SQDC pour attendre pour acheter du cannabis? Non, vous ne seriez pas édifié. Au contraire, vous seriez même outré, insulté. C'est permis selon la loi. J'aurais le droit selon la loi. Est-ce que c'est édifiant? Non. Est-ce que ce serait permis de venir le matin, d'avoir fumé du cannabis, venir ici avec les yeux rouges? Permis selon la loi, oui. Selon la loi de Dieu, édifiant? Non. Est-ce que ce serait permis de me voir arriver à sous ce matin ou juste je sens l'alcool, tu sais? Permis selon la loi? Oui. Édifiant? Non. Mais il faut faire attention, là. Pour moi, le pasteur, oh non, c'est pas permis. Mais des fois, pour le chrétien, certaines choses sont quand même un peu permis. Pourquoi on a différents standards? Moi, je crois que chacun d'entre nous, si tu es chrétien ce matin, chrétienne engagée, tu es le pasteur, la pasteur de ta communauté. On a tous cette responsabilité-là. Donc, on doit avoir les... Oui, bien sûr, Dieu m'a donné, moi, ce ton-là, cet appel-là de travailler pour l'Église, pour pasteur Michael et tous les pasteurs ce matin. Mais chacun d'entre nous, on doit réaliser qu'on a tous une responsabilité en tant que berger dans nos communautés. Si tu me voyais tous les soirs poster sur les réseaux sociaux que j'ai un verre d'alcool, ce serait permis, édifiant. Non. Vous savez, quand j'étais pasteur jeunesse, j'ai bien appris ce principe-là. J'aime la musique, je fais de la musique. Je suis allé voir un spectacle de musique. Et c'est un artiste de rap, donc je nommerai pas le nom, c'est pas nécessaire, pas que vous ayez fouillé et me juger par la suite. Mais je suis allé voir cet artiste de rap-là, puis j'étais excité d'aller le voir. Je partageais sur les réseaux sociaux. J'étais super content, tu sais. Puis je disais, waouh, ça s'en vient, dans quelques jours, ça s'en vient. Et vous savez, cet artiste-là a évolué au niveau de sa démarche artistique. Plus il vieillissait, plus il y avait du contenu intelligent, on va dire. Mais dans sa jeune carrière, il y avait du contenu un peu misogyne. C'était un ancien vendeur de drogue, donc il en partageait. Donc, limite, tu sais. Fait que moi, j'étais pasteur jeunesse à l'époque. Donc, mon pasteur, Mathieu Bléry, à l'époque, vient me voir dans son bureau. Il dit, Emmanuel, j'ai eu une plainte d'un parent. Je sais que tu vas voir un spectacle de rap bientôt. Puis, c'est comme, la maman n'est pas trop à l'aise parce que son fils est allé voir ce qu'il fait, voir ses œuvres. Puis, il y avait des filles pas trop habillées, mettons, là. Fait que là, pour sur le moment, ben là, ils sont donc ben légalistes. Là, c'est quoi cette affaire-là? Ben, le Saint-Esprit m'a repris. C'est permis. C'est pas utile. C'est permis d'aller voir le spectacle, moi-même, avoir du recul avec des lunettes spirituelles, de contempler le talent que Dieu a donné à cet homme-là. Est-ce que c'est utile de le partager sur les réseaux sociaux? Sachant que je suis le berger de ces ados-là, puis qu'eux autres vont aller faire des recherches, puis ne sont pas tous rendus dans le même développement spirituel que moi. Beaucoup de choses sont permis, mais ne sont pas utiles. Qu'est-ce que dans ta vie tu fais que tu dis, ben je le fais, mais je ne pense pas aux répercussions que ça peut avoir autour de toi. Le chrétien ne vit plus pour lui ou pour elle seulement. Il vit pour édifier les autres, édifier le corps du Christ. Et on vit pour plus grand que nous. D'ailleurs, mon deuxième point, on existe pour édifier le nom de Jésus. Verset 24, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ça, il est en tête, justement. Il sait, il pense à Jésus. L'apôtre Paul est christocentrique. Jésus est au centre de sa pensée. Jésus a changé sa vie, bien sûr. Et on peut le lire juste dans Philippiens, lorsqu'il écrit à l'épître de Philippiens, on voit des parallèles avec le verset qu'on vient de lire. Philippiens 2, 3 à 8. « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect. Comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Si Jésus lui-même a appliqué le premier point de vivre pour les autres, de s'oublier lui-même, de quitter sa royauté, combien nous-mêmes on doit justement élever, glorifier ce Jésus-là dans nos vies de tous les jours, dans nos choix, dans nos comportements. Il y a un théologien, M. Palmer, qui donne cette image qui m'a vraiment parlé parce que, autant c'est un homme très brillant, Dr. Palmer, mais est assez simple. Par exemple, si aujourd'hui, là, après-midi, un ami va vous inviter à un bon michoui, barbecue, hallelujah. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Je suis le seul à avoir faim, mon ventre gargouille. Je vois un gars qui est là en arrière, j'ai faim. J'ai-tu hâte qu'il t'arrête de prêcher pour que je puisse manger? Ça ne sera pas trop long, mon frère. Ton ami t'invite à un bon barbecue aujourd'hui, là. Une viande marinée pendant 2-3 ans. Bouteille de vin à 1 000$. Tu sais, ces bouteilles-là qui sont à SAQ, là, tu les vois sur les étagères. Tu dis, un jour, je vais l'acheter. Il t'invite à un beau barbecue. Puis, tu sais, il prépare le barbecue. Tout là, la vibe est là. Il fait beauté dehors. Oh, wow, alléluia, c'est dimanche. Congé demain, vacances de la construction. Le barbecue est prêt. Wow, il a pris le temps de le cuisiner. Et ça arrive, et il prend le temps de servir, d'amener ça avec joie. T'entends les anges, littéralement, pendant que le barbecue, la bouffe s'en vient. Il arrive, il t'amène ça sur table, et puis juste avant que tu prennes la première bouchée, je veux juste te dire, pendant tout le temps que je marinais cette viande, je priais le grand Dieu Bouddha. Et toi, tu manges quand même. Palmer, ce qu'il dit ici, faire un parallèle avec ce que dit Paul. C'est si toi, tu sais qu'il y a un contexte spirituel particulier, mais que tu ne dis rien, tu es en train de faire un accommodement déraisonnable. Vous vous rappelez, on avait parlé beaucoup des accommodements raisonnables il y a quelques années en lien avec la religion. Est-ce qu'on a le droit de faire ci, faire ça? Mais des fois, est-ce qu'on on doit l'avouer, on ne fait pas des accommodements déraisonnables lorsqu'on oublie notre saveur, lorsqu'on n'est pas, on oublie de dire qu'on est chrétien. On oublie de parler de Jésus. Moi, je le voyais dans la famille de mon épouse. Ils ne vont pas attendre le message de ce matin, je l'espère. Mais à quel point, des fois, c'était comme, dès qu'on parlait de religion, nous, on devait se taire, puis on n'en parle pas. Puis... Mais maintenant, là, j'étais comme, dès qu'il y a une occasion de parler de Jésus, je le fais. J'en parle. Sans intimider, sans écraser. Mais tu dois parler, tu dois prendre le temps d'édifier le nom de Jésus. Oui, par tes actions, mais aussi par tes mots. Tu as le droit d'en parler, de le nommer, de dire que tu vas à l'église, que ça fait partie de ta vie. Et voici ce que dit Palmer. Ça met l'invité dans une situation faussée et ça sème la confusion dans la conscience des autres. Parce que si toi, tu n'assumes pas ton Jésus, tu ne mets pas ton pied à terre pour dire « Non, moi, je suis différent. Moi, là, malheureusement, je vais manger de la salade aujourd'hui. » On ne sait pas c'est quoi la différence entre toi et les autres. Tu n'es pas la lumière du monde. Tu as une responsabilité, en fait. Comme je le disais tantôt, tu es un berger, tu es une bergère dans ta famille, dans ta communauté. Moi, j'ai vraiment aimé une campagne qui s'intitule « He Gets Us ». C'est une campagne qui a été faite aux États-Unis. C'est pendant le Super Bowl. Et le but, c'était d'élever, glorifier le nom de Jésus de manière créative et vraiment que les gens, pendant le Super Bowl, puissent vraiment voir, entendre le message de Jésus. Et bien, même avant le Super Bowl, il y avait plusieurs vidéos, il y avait une campagne où ça amenait les gens vers l'église locale parce qu'ils ne voulaient pas juste faire une pub au Super Bowl, ils voulaient que les gens puissent rencontrer Jésus. Et ça a eu un succès incroyable, vraiment. Et on regarde une courte vidéo, une des vidéos qui a été lancée dans la campagne.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human.
Jésus aime les gens qu'on aime pas.
Some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can show.
There's one simple hearing hack anyone can use to improve.
Ce que disait la vidéo à la fin, c'est Jésus aime même ceux qu'on n'aime pas. Il comprend et nous aime. Et moi, vous savez, lorsque j'ai appris l'histoire derrière, moi j'étais curieux, j'ai fait mes recherches. C'est un homme qui est milliardaire, qui a investi, parce que ça coûte 7 millions, juste produire une vidéo, là, avoir une vidéo, diffuser une vidéo au Super Bowl, c'est 7 millions de dollars, OK? C'est pas mon budget de congé de la construction, là. 7 millions. Et ça, là, tu parles pas de la production pour faire une vidéo de qualité parce que tu veux qu'il y ait un retour sur investissement, là, 7 millions. Mais c'est un chrétien, un milliardaire, un homme qui, selon leurs termes à eux, est considéré de droite, extrême droite, qui dit « Moi, je ne veux pas qu'on nomme. Je ne veux pas que mon nom, mon histoire, ou ce que je fais dans la vie, puisse nuire à la campagne. » Donc, lui, il a fait un don pour dire « Je veux donner pour que vous puissiez faire cette campagne-là et édifier le nom de Jésus. » C'est facile de dire « Ah oui, mais il est riche, il a donné 7 millions. » Non, 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 non. 7 millions, là, c'est 7 millions. Et il a donné beaucoup plus que 7 millions. Et un homme comme ça, si vous lisez les Écritures, c'est pour ça que c'est écrit, c'est dur pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. T'es attaché à ton argent même si tu as des milliards de dollars. Il a fait un pas de foi, malgré sa richesse, d'élever le nom de Jésus. Il y a eu ce courage-là. Et c'est bon pour nous, ça nous enseigne qu'on peut, durant l'été, durant les vacances, que Dieu te donne une occasion d'élever, de ne pas être gêné, d'élever le nom de Jésus. Et mon troisième point ce matin, on existe pour sauver le monde. Verset 33, « Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » N'oublions pas le passé de l'apôtre Paul qui écrit ça. L'apôtre Paul était la personne qui persécutait qui voulait nuire au christianisme, qui voulait que le christianisme arrête d'exister, littéralement qui conspirait à ce que les chrétiens soient tués. Mais c'est beau de voir juste sa réponse, on voit son évolution. Puis l'apôtre Paul a l'équivalent d'un double doctorat, mais sa réponse est simple. Moi là, je veux sauver le plus de monde possible. L'important pour moi, là, c'est de sauver le plus de monde. C'est pas qui va gagner le débat sur les viandes, où tu as le droit de manger telle viande, puis quelque chose. Non, 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 non. le plus important pour lui, c'est que le plus de gens soient sauvés. Le plus important pour lui, c'est que le plus de gens puissent entendre le message de Jésus. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, voici ce que je pense, puis vous allez penser comme moi, puis c'est ça, puis être tranchant. Non, 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 non. Il fait l'arbitre. Il est comme, OK, je sais que vous ne comprenez pas tous, vous n'êtes pas tous d'accord, mais est-ce qu'on peut revenir au centre? Est-ce qu'on peut revenir à ce qui est important? Je vous ouvre mon cœur ce matin. Une de mes... Puis pasteur Michael, tu pourras nous partager toi aussi. Un de mes moments les plus difficiles de mon pastorat, ça a été la pandémie. La fameuse pandémie, parce que moi, là, plusieurs personnes de l'église, je les rencontrais, puis je suis content qu'ils soient à notre église aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, on a joint votre église parce que notre pasteur, l'église où on allait, nous a dit qu'on n'avait pas d'allure si on n'était pas vacciné. Ou notre pasteur nous a dit que si on était vacciné, vous n'aviez plus votre place dans notre église. Tellement de gens qui m'ont dit, moi, je ne parle plus à des membres de ma famille à cause de la pandémie, qu'on n'était pas d'accord sur tel point et telle opinion. Combien de pasteurs ont dit, mais vous, moi là, je vais aller dans cette direction-là, puis si vous ne me suivez pas, moi je quitte mon église. Ça m'a attristé, moi. Parce que moi, quand j'ai joint la famille de Christ, parce que je voulais qu'on aille tous dans la même direction, puis qu'on puisse s'aimer, puis être toujours en accord sur tout. Non, 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 non. Mais au moins dire, notre but, c'est d'amener le message de la bonne nouvelle de Jésus. J'ai pas eu beaucoup d'amen. J'en prendrai un autre. Amen. Merci, mon frère, merci. J'aime citer un poète du matin qui a faim présentement, qui dit, il s'appelle Emmanuel Hippolyte. Quand nos supposées convictions nous ont opposés de notre vraie direction. Quand nos supposées convictions nous ont opposés de notre vraie direction. Parce que tout d'un coup, dans cette saison-là, est-ce que nos convictions, qu'on pensait que c'était les convictions les plus importantes, on nous a fait perdre le sens, la puissance du message de l'Évangile? Mais au moins, il y a des histoires comme la famille de Daniel, Lina et Richard. Il y a une image qui va apparaître à l'écran, puis ça me touche beaucoup, cette histoire-là. Il y a 2-3 semaines, je suis allé prêcher dans leur église, puis je fais de la musique, je vends des albums à la fin de la réunion, puis il y a une dame qui était là bénévole pour m'aider avec la vente des CD, tu sais, que je puisse prier avec les gens, tu sais. Et puis il y avait Lina qui était à la table, et puis elle était tellement pleine de joie, pleinement serviable. C'est madame-là, je dis, waouh, elle brille pour Jésus. Puis tu sais, elle c'est une dame qui pourrait être ma mère, tu sais, fait que je me dis, hey, elle, ça fait quoi, 30 ans qu'elle est chrétienne, puis j'arrive pour lui demander, merci. Mais en fait, j'ai pas demandé son témoignage, mais c'est un pasteur qui me l'a partagé après. Puis je dis, waouh, cette femme-là est inspirante, puis elle est tellement gentille, puis j'ai été vraiment bien accueilli. Il me dit, elle vient de se faire baptiser il y a un mois, là. Ah ouais, comment ça? Elle racontait l'histoire, c'est que son fils, un ado, devient chrétien. Mais la manière qu'il est devenu chrétien, c'est vraiment particulière parce qu'eux autres ne viennent pas de milieu chrétien, pas de famille chrétienne, puis ils habitent à Drummondville, puis eux autres, ils, dans leur ville, il y a des églises catholiques, c'est tout, ils ne vont plus à l'église. Mais un jeune ado invite son fils à venir à l'église. Il dit, ouais, moi je vais à l'église des vendredis, je crois en Jésus. Ado, là, c'est pas un ado qui consomme comme plusieurs ados, mais c'est un ado qui aime Jésus, puis qui fait attention à lui, puis regarde, il va à l'église, puis il dit, hey, viens à mon église, tu vas aimer ça, tu vas voir. L'ado va à l'église, est touché, encouragé, waouh, puis il invite ses parents à venir à l'église. Les parents entendent le message de l'Évangile, ils sont touchés, transformés, ils décident de se faire baptiser. Puis là, on les voit là, à leur baptême, recevoir leur diplôme, puis c'est vraiment super. Qu'est-ce qui les a convertis? Qu'est-ce qui les a touchés? Le message de l'Évangile. Pas des convictions qui vont durer quelques semaines, une année, deux, là. Le message de l'Évangile qui parle encore aujourd'hui. Qu'on puisse ne pas l'oublier, surtout durant cet été, lorsque Dieu va vous donner des occasions de parler aux membres de votre famille, lorsque vous êtes confrontés à des situations, est-ce qu'un chrétien fait ça ou pas? Revenez au centre de dire, est-ce que je glorifie Jésus? Est-ce que je suis en train d'édifier l'Église? Mais l'important, c'est de rester, de garder, c'est quoi notre direction mosaïque? J'invite les musiciens à s'approcher. En terminant, moi j'aime être pratique. Parce que si on entend un message comme ça, mais on ne sait pas comment le mettre en pratique, on a perdu notre temps. Je vous partage ce matin les 3 P pour ne pas perdre notre direction. Tout d'abord, la parole de Dieu. La parole de Dieu est centrale parce qu'elle nous guide dans notre vie. Moi, je crois que la Bible va t'éloigner du péché et le péché va t'éloigner de la Bible. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Psaume 119, verset 9. verset qui m'a tellement aidé, moi, quand j'essayais d'arrêter de consommer du cannabis, mais de me revenir à la parole de Dieu, puis que j'avais besoin d'être encouragé. Comment je faisais pour me garder dans les voies de Dieu, puis que j'avais envie de consommer de l'alcool, puis boire, puis boire, puis de me saouler sans arrêt, mais de revenir et dire, Seigneur, je veux consommer de l'alcool avec modération, puis je veux rester pur dans ton chemin à toi. La parole va t'aider. Dieu va te guider. Moi, la parole, c'est mon GPS, c'est ma boussole. Est-ce que tous les mots actuels de 2023 sont dedans? Non. Mais les convictions, les valeurs vont t'aider à bien orienter ta vie. Et deuxièmement, la prière. La prière va t'éloigner du péché et le péché va t'éloigner de la prière, j'y crois. Parce qu'en parlant avec Dieu, tu vas connaître le cœur de Dieu. Plus tu parles avec Dieu, plus tu vas entendre le cœur de Dieu, tu vas comprendre. Il y a une sagesse qui va venir. Puis je crois, je l'ai expérimenté dans ma vie, je le crois. Plus tu vas parler avec lui, plus tu vas lui poser des questions. Seigneur, est-ce que je bois trop d'alcool? Est-ce que je me saoule? Peut-être que tu ne te saoules pas, mais des fois, Dieu va te parler par ton Saint-Esprit, de dire, hey, tu devrais modérer, tu devrais faire attention. Est-ce que c'est une bonne idée que je prenne du cannabis, même si le médecin me l'a conseillé? De parler avec Dieu, de demander sa sagesse. Je suis convaincu que tu vas développer une sagesse qui va t'aider lorsque tu dois prendre certaines décisions. Et troisièmement, un partenaire. Tu as besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir la sagesse. Puis moi, j'admire la sagesse d'une sœur de notre église. On se parlait ce matin, mais je ne veux pas la mettre sur le spot. Mais qu'elle est venue me voir alors qu'elle avait déjà demandé à des conseillers. Le médecin lui avait proscrit quelque chose. Puis il était comme, je ne sais pas si c'est en lien avec nos valeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Mais elle est venue me voir, mais elle est allée voir aussi d'autres personnes. Honnêtement, je n'avais pas nécessairement la réponse parfaite pour elle. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai prié. Et puis finalement, Dieu a ouvert une porte pour autre chose. Mais simple fait d'avoir des partenaires dans la foi pour demander la sagesse, c'est tellement utile. Et qui? Des partenaires dans la foi? Une personne chrétienne, sage, mature, qui prie et qui va te donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. J'espère que tu as noté ça. Parole, prière, partenaire. On va avoir un moment de prière ensemble dans quelques instants. Puis mon but avec cette prédication-là, c'est pas de condamner, mais je ne pouvais pas aussi te donner toutes les réponses. Je pense que les réponses, tu dois aller les chercher toi-même aussi avec Dieu. Peut-être que tu as une dépendance à l'alcool, sans nécessairement que tu te saoules, mais peut-être que tu as une dépendance, tu bois trop, tu bois souvent. Peut-être que Dieu doit te parler ou le Saint-Esprit doit te parler que tu arrêtes. Peut-être que tu as une dépendance au cannabis. Puis toi, c'est vraiment en mode récréatif, puis que ce n'est pas nécessaire que tu en prennes ou le médecin ne te l'a pas proscrit, mais que Dieu te parle ce matin. Peut-être que tu as une dépendance, mais ça t'arrive même de te surconsommer, d'être saoul, ivre. Mais je veux te dire, ça édifie pas le corps de Christ, ça t'édifie pas toi, ça glorifie pas le nom de Jésus. Tu viens chercher de l'aide, peut-être pour une personne qui est aux prises avec une dépendance, peut-être une dépendance à des médicaments, une dépendance à l'alcool, à la drogue, mais tu viens pour une personne que tu sais, ça fait des années qu'elle a besoin d'être libre de ça, puis tu viens ce matin prier pour cette personne-là. Peut-être que tes supposées convictions t'ont fait perdre ta direction. Parce que justement, tu as eu des débats ces derniers mois, années, puis tu as perdu ta direction de dire, hey, moi, j'existe pour amener les gens à Jésus. Peut-être que tu as besoin d'aide. Tu as une douleur, que ce soit psychologique, physique. Tu n'as pas envie de consommer du cannabis, d'en prendre, ou tu n'as pas envie d'aller dans la direction que le médecin t'a amené, mais tu demandes à Dieu de prendre son aide ce matin. Tu es à la bonne place. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps, qu'on puisse se lever ensemble, Mosaïque. Et tu le fais devant Dieu. Je t'invite à juste élever la voix. Les musiciens vont commencer à jouer. On va chanter ce chant de la bénédiction. Et moi, je crois tellement qu'on veut des prochaines générations qui vont être libres, libres de dépendance. Non seulement qui vont être libres, mais qui vont avoir cette mission d'aller délivrer d'autres. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour quelqu'un autour de toi qui est aux prises avec une dépendance. Prie pour ta dépendance si tu en as une. Prie pour questionner Dieu, pour dire, Seigneur, est-ce que je dois faire attention à moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois réorienter alors qu'on est en vacances et qu'on a tendance à se relâcher? Remets à Dieu ce qui est sur ton cœur. Remets à Dieu si tu es interpellé par ce que je viens de dire. Parle-lui. Prends le temps de lui parler, d'appliquer les 3 P. Parle-lui. On chante ce chant, on glorifie Dieu, on le prie. Ensuite, on termine en prière.